Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Il n'y aura pas d'autre solution que la dissolution, affirme Nicolas Sarkozy, l'ancien président qui parle de suicide politique à propos de la décision de François Bayrou de demander la confiance à l'Assemblée. Les explications de Stéphane Robert dans un instant. L'augmentation de la fiscalité du capital ne va pas provoquer un exil massif des grandes fortunes, estime le Conseil d'analyse économique. Marie Viennot a lu la note de cet organisme indépendant rattaché à Matignon. Le Brésil, suspendu au procès de Jair Bolsonaro devant la Cour suprême. L'ancien président est jugé pour tentative de coup d'État. Les juges brésiliens dénoncent les pressions américaines sur ce procès. La Chine prépare sa grande parade militaire demain à Pékin en présence de Vladimir Poutine et du dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Une démonstration de force qui embarrasse les ambassadeurs européens présents dans la capitale chinoise. Emmanuel Macron pourra-t-il faire l'économie d'une dissolution de l'Assemblée si François Bayrou est renversé lundi prochain à l'Assemblée? Le chef de l'État n'a toujours pas dévoilé ses intentions, mais le débat prend de l'ampleur face à l'incapacité du Premier ministre à bâtir une majorité pour obtenir la confiance. La semaine dernière, Édouard Philippe avait évoqué une dissolution assez inéluctable, selon ses termes. Aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy qui tient à peu près les mêmes propos que l'ancien Premier ministre Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
L'ex-président qui s'exprime dans une interview au Figaro.
Oui, Nicolas Sarkozy juge effectivement que la dissolution est le seul chemin possible pour sortir du blocage politique dans lequel on se trouve. L'ex-président se livre tout d'abord à un examen très critique des récentes décisions prises par les deux têtes de l'exécutif, le président de la République et le Premier ministre. Concernant François Bayrou et son choix de solliciter un vote de confiance à l'Assemblée nationale, c'est à peu près le contraire de ce qu'il fallait faire, estime Nicolas Sarkozy. Demander la confiance avant de discuter avec les formations politiques, c'est, dit-il, la certitude d'aboutir à un échec. Il n'est pas moins sévère avec Emmanuel Macron, dont il déplore l'inclination naturelle à vouloir gagner du temps et la volonté de toujours vouloir faire rentrer le pied droit dans la chaussure gauche. Il condamne aussi sa désastreuse dissolution, décidée l'année dernière. Elle a conduit à de longs mois d'instabilité, dit-il, et il estime que nous sommes aujourd'hui dans les derniers soubresauts de cette funeste décision. La seule solution pour en sortir, affirme Nicolas Sarkozy, c'est donc la dissolution. Il serait curieux, ajoute-t-il encore, d'avoir choisi de dissoudre quand rien ne l'exigeait et de s'y refuser aujourd'hui quand la décision s'impose. Il pense cependant qu'Emmanuel Macron ne le décidera pas tout de suite et va tenter de nommer un nouveau chef de gouvernement. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, on aboutira au même résultat, prédit l'ancien président. Par ailleurs, il enjoint les membres de son ancienne famille politique, les députés Les Républicains, à ne pas voter la confiance à François Bayrou. S'il y a une dissolution et des législatives anticipées, ils seront assimilés au gouvernement, met en garde Nicolas Sarkozy. Il considère encore qu'une primaire entre les différents candidats de la droite et du centre est indispensable avant la présidentielle de 2027 et que le Rassemblement national fait bel et bien partie de l'arc républicain.
Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture, le Rassemblement national qui réclame lui une dissolution ultra rapide de l'Assemblée. Jordan Bardella et Marine Le Pen l'ont dit ce matin après avoir été reçus par François Bayrou à Matignon. Pour la chef de file des députés RN, je cite, il faut que la nouvelle majorité issue de ces nouvelles élections puissent construire un budget. Cet après-midi, c'est Bruno Retailleau qui devait être reçu à Matignon. Le président du parti Les Républicains est hostile à la dissolution. Il appelle à voter la confiance à François Bayrou le 8 septembre prochain. Quant à Emmanuel Macron, il avait invité aujourd'hui à déjeuner à l'Élysée les chefs du camp gouvernemental, le fameux socle commun qui soutient encore François Bayrou. Et tous se sont prononcés contre la dissolution, selon un participant cité par l'agence France Presse. À l'origine de cette crise politique, il y a le déficit budgétaire de la France qui a relancé le débat sur la fiscalité du capital. Une double question ce soir, l'augmentation de cette fiscalité a-t-elle un effet sur l'exil fiscal et quelles sont les conséquences de cet exil sur l'économie française? Le Conseil d'analyse économique répond à cette double interrogation dans une note, le CAE, un organisme indépendant rattaché à Matignon. Marie Viennot, bonsoir.
Bonsoir.
En s'appuyant sur des données administratives inédites, les économistes du CAE ont conclu que la fiscalité du capital a peu d'effet sur les départs à l'étranger et donc sur l'économie française.
Oui, une augmentation du taux d'imposition sur le capital des 1% des Français qui en disposent le plus, soit 385 000 ménages, conduit au départ de 110 voyers fiscaux, en plus des départs habituels, et 900 sur le long terme, ce qui représente 0,23% du total. C'est donc très peu, mais comme ces ménages pèsent plus que la moyenne dans l'activité économique, leur capital étant souvent composé de biens professionnels, les chercheurs ont aussi évalué l'effet direct du départ d'un détenteur d'entreprise sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Moins 15% à moyen terme, ce n'est pas négligeable, mais l'entreprise ne disparaît pas pour autant. Il y a aussi un effet sur les emplois, puisque dans ces entreprises où l'un des détenteurs du capital a changé de résidence fiscale, la masse salariale chute de 30%. Pas négligeable non plus, mais là encore, ce chiffre ne prend pas en compte le cas où l'entreprise a été revendue à un tiers et ses salariés transférés dans une autre unité, ce qui dans ce cas fait chuter ce chiffre à 15%. De cette note, on retient donc que oui, augmenter la fiscalité sur le capital a un effet sur l'exil et les entreprises, mais que c'est modeste. Impossible pour autant de transposer ces résultats aux effets d'une taxe Zuckman qui s'appuierait sur moins de 2000 contribuables et pas 385 000 comme cette note. En revanche, elle peut être une bonne base de réflexion dans l'hypothèse d'un retour de l'impôt sur la fortune. Elle nous apprend aussi que les gros patrimoines sont beaucoup moins mobiles que les hauts revenus. Or, c'est sur ces derniers que le gouvernement veut pour le moment faire peser l'augmentation de la fiscalité des plus riches. En mobilisant des études scandinaves, elle nous apprend enfin que quand réforme de la fiscalité du patrimoine il y a, 20% des rentrées fiscales attendues partent sous l'effet de l'exil fiscal, mais 54%, beaucoup plus donc, sous l'effet de l'optimisation fiscale de ceux qui restent. Et donc, c'est bien là aussi le sujet sur l'augmentation de la fiscalité des plus fortunés.
Merci Marie Viennot, chef du service économique de la rédaction de France Culture. Dans l'actualité sociale, sans attendre le mouvement Bloquons tout, le mercredi 10 septembre et la journée de mobilisation intersyndicale le 18, les agents CGT de l'énergie ont démarré aujourd'hui une grève reconductible. Ils veulent obtenir de meilleurs salaires pour les 140 000 électriciens et gaziers de France. Mais ils revendiquent aussi des baisses du prix du gaz et de l'électricité pour tous les usagers. La CGT énergie revendiquait aujourd'hui 220 piquets de grève à travers le pays. Camille Magnard s'est rendue pour nous sur l'un de ces piquets dans l'Est parisien.
Vous entendez là ? C'est bon ?
Dans la cour de l'immeuble EDF, c'est le secrétaire général de la CGT Énergie Paris, Cédric Liechti, qui tient le micro. Ici, la grève est plutôt bien suivie, avec au cœur des revendications la grille des salaires, dont les deux échelons les plus bas sont en dessous du SMIC, et ça freine toute la progression des salaires en cours de carrière.
Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que le SMIC soit remis en bas de grille, comme ça devrait être la loi et comme c'est la légalité en France, pour permettre une augmentation immédiate de 9,3% de l'intégralité des salaires des 140 000 électriciens et gaziers.
Ce problème, Priscilla Berger le connaît bien. Elle est élue CGT au CSE parisien de GRDF.
On est sur 12 échelons. On prend tous les 5-6 ans, 2,5%, et en sachant que les 4 premiers échelons, on ne les a pas. Donc du coup, il y a quand même une perte de 10% de salaire au final. Et en plus, comme on a augmenté de 4 ans, voire 5 ans, la retraite pour certains, l'échelon 12 s'est arrêté à 35 ans de carrière.
Le problème, explique Priscilla, c'est que les agents ont accepté pendant très longtemps des salaires plus bas que la moyenne, en compensation d'avantages sociaux liés à leur statut de service public. Mais ces avantages sont remis en cause les uns après les autres. Alors le compte n'y est plus pour les électriciens et gaziers de la CGT qui comptent prolonger leurs actions pour faire la jonction avec le mouvement Bloquons tout du 10 septembre. Cédric Liechti.
On ne s'interdira rien et si effectivement il faut qu'on se radicalise dans les actions, on se radicalisera, ça ne nous pose aucun problème. En face, ils sont radicalisés, ils sont extrêmement violents et c'est l'avenir de nos gosses qui est quand même impacté aujourd'hui.
Merci les camarades et
les amis. Il y a 2 ans, les agents du secteur de l'énergie avaient bloqué, occupé des sites de production d'électricité, coupé même le courant dans des commissariats ou des bâtiments publics. Ils avaient obtenu au final 200 € d'augmentation pour tous.
Voilà pour ce reportage signé Camille Magnard. L'émotion est vive après le suicide d'une enseignante hier matin, jour de la rentrée scolaire dans le Cantal. Une institutrice de 42 ans qui était harcelée par un corbeau pour son homosexualité. Caroline Grandjean était la directrice d'une école à classe unique dans la commune de Moussage. Elle n'a laissé aucun écrit pour expliquer son geste face au harcèlement qu'elle subissait. Caroline Grandjean était soutenue par le syndicat des directrices et directeurs d'école. Le syndicat qui dénonce le manque de soutien de l'éducation nationale dans ce drame. Selon sa porte-parole Florence Comte, le phénomène du pas de vague est toujours présent dans l'institution scolaire, 5 ans après le meurtre de Samuel Paty.
On en a un petit peu assez qu'il y ait ce pas de vague et on souhaiterait que quand un enseignant dit qu'il a un souci, qu'il se sent pas bien, etc., qu'il y a vraiment un problème, qu'il y a des parents qui l'ont agressé, qu'on ait ce réel soutien de l'institution. Et parfois, nos supérieurs hiérarchiques ne se mouillent pas en disant « oui, mais quand même, je veux dire, ils prennent pas tout à fait parti contre les parents d'élèves » ou contre des collègues, etc., par exemple. Je veux dire, il y a parfois trop ce pas de vague et ce sentiment qu'on ne nous fait pas toujours confiance, en fait, de facto. Et parfois, il y a sûrement des personnes qui ne souhaitent pas se mouiller ou qui ne souhaitent peut-être pas qu'on parle, en fait, de sa circonscription. Déjà, le cas de Madame Grandjean avait été évoqué l'année dernière quand on lui refusait de revenir dans son école, puisque l'été dernier, l'été 2024, c'était ce qu'elle voulait et on lui avait refusé de revenir dans son école. C'est vrai qu'on était déjà, au titre du syndicat, intervenu dans plusieurs médias, mais l'éducation nationale souvent souhaite que ça ne paraisse pas dans les médias. Donc on ne parle pas de violence, qu'on ne parle pas d'élèves qui sont difficilement inclus, etc. C'est vrai que l'éducation nationale a tendance à souhaiter que le pas de vague soit le plus présent possible.
Propos recueillis par Hakim Kasmi. Le ministère de l'Éducation se dit ce soir profondément touché par ce décès tragique. SOS Homophobie affirme au contraire que l'éducation nationale a du sang sur les mains, selon les mots de la porte-parole de l'association Julia Torlé. Une attaque au couteau cet après-midi à Marseille. Un homme de nationalité tunisienne a agressé plusieurs personnes se trouvant dans un hôtel dont il avait été expulsé. Il y a 5 blessés, dont 2 dans un état critique. L'assaillant a ensuite été abattu par la police à l'extérieur de l'établissement. Sur le cours Belzunce, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau est attendu sur place ce soir. Bruno Retailleau qui veut empêcher l'organisation des rêves parties sauvages alors que les forces de l'ordre procèdent actuellement à l'évacuation de centaines de teufs réunis dans l'Aude, dans la zone ravagée par un gigantesque incendie il y a un mois. Et pour cela, il souhaite s'inspirer du modèle italien, car dès son arrivée au pouvoir, Giorgia Meloni avait pris des mesures visant à durcir la législation contre ces rave parties. Nous sommes en direct de Rome avec Bruno Duvic. Bonsoir.
Bonsoir.
Bruno, en quoi consiste ce durcissement de la législation italienne ?
Alors, de 3 à 6 ans de prison, de 1 000 à 10 000 euros d'amende et la suppression du matériel. Voilà ce que risquent en théorie les organisateurs de rave depuis 3 ans en Italie. Quel bilan ? Les fêtes n'ont pas disparu, mais elles ont nettement diminué. La présence plus systématique de la police pour faire respecter la règle a certainement joué un rôle. Les rassemblements ont continué, mais moins nombreux, moins fournis. L'effet dissuasif a joué. Il est intéressant de regarder aussi le bilan juridique, parce que ce décret-loi fut l'un des tout premiers actes de Giorgia Meloni, posant son action sur des bases passablement répressives. Ce qui inquiétait notamment à l'époque, c'était la rédaction de l'article du Code pénal. Une première version, dans cette première version, des manifestations au sens large risquaient de tomber sous le coup des nouvelles règles. Aujourd'hui, sont menacés de prison tous ceux qui utilisent, sans autorisation, des terrains ou édifices publics ou privés, pour des fêtes musicales ou d'autres motifs de divertissement et mettent en danger la santé ou la sécurité publique. Bilan, les 2 premières années, 8 personnes seulement ont été renvoyées devant la justice sur la base de ces dispositions et aucune n'a été condamnée, les conditions n'étant pas réunies. 0 condamnation à fin 2024, il y a 2 raisons possibles. Parce qu'il y a moins de rassemblements, ou bien parce qu'étoffer l'arsenal juridique n'était pas indispensable pour limiter les rassemblements illégaux. Une pression politique et policière plus importante suffisait.
Merci Bruno Duvic, correspondant de France Culture à Rome. Au Brésil, le procès de Jair Bolsonaro est entré aujourd'hui dans sa phase finale devant la Cour suprême. L'ex-président, jugé pour tentative de coup d'État, risque plus de 40 ans de prison. Il n'assiste pas à l'audience et il n'a pas pu entendre en direct le juge Alexandre de Moraes, l'accusé de chercher à installer une dictature. Le magistrat promet de juger Bolsonaro avec impartialité en ignorant les pressions internes et externes. Allusion au soutien de Donald Trump à l'ex-président brésilien. Les États-Unis ont imposé des sanctions au juge Moraes et ils ont alourdi les droits de douane appliqués au Brésil. Sara Cozzolino suit ce procès de Jair Bolsonaro devant la Cour suprême brésilienne.
Les scènes de vandalisme et de chaos du 8 janvier 2023, des œuvres d'art détruites, des verres brisés sont encore bien présentes dans les esprits des Brésiliens, mais aussi des cinq ministres qui jugeront les huit accusés de plusieurs crimes. Le principal, celui d'avoir dirigé une organisation criminelle qui a tenté un coup d'État. C'est une novella qu'une grande partie des Brésiliens suit en direct à la télévision. Une centaine de membres de la société civile a tout de même pu assister sur place au jugement. À l'extérieur du bâtiment, un important système de sécurité a été mis en place avec des chiens renifleurs, des milliers de policiers déployés, des drones survolant le site. Une sortie d'urgence a même été pensée pour les juges en cas de problème. Le procès se joue en l'absence du principal accusé, l'ancien président Jair Bolsonaro. Assigné à résidence, il souffre d'inquiétantes crises de hoquet. L'ouverture ce mardi débute par la lecture du rapport détaillé et des preuves des crimes par le juge Alexandre de Moraes, bête noire des bolsonaristes et du président américain Donald Trump. Avant la lecture du rapport, le juge a rappelé l'importance de l'indépendance de la justice brésilienne. Elle ne cédera à aucune menace et ignorera les pressions intérieures et extérieures, a déclaré le juge.
Sara Cozzolino, correspondante au Brésil pour France Culture. Les adversaires de l'Occident ont rendez-vous à Pékin demain pour la grande parade militaire du régime chinois. Une démonstration de force de la Chine communiste à l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans la tribune officielle, il y aura le président russe Vladimir Poutine et son nouvel allié, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. L'autocrate de Pyongyang est arrivé cet après-midi à Pékin dans son train blindé. Au total, 26 chefs d'État assisteront à ce défilé militaire. Défilé qui provoque une certaine gêne chez les ambassadeurs européens en poste dans la capitale chinoise, Pékin, où l'on retrouve Sébastien Berriot.
Alors à la veille du défilé, la mise en scène est soigneusement gardée secrète, mais on s'attend à ce qu'une place de choix soit réservée aux deux invités les plus attendus de la parade, Kim Jong-un et Vladimir Poutine. C'est la toute première fois que les deux dirigeants vont se retrouver ensemble aux côtés de Xi Jinping. À l'image de ces deux voisins de la Chine, une grande partie des autres chefs d'État présents sont issus de pays non démocratiques. Les présidents iraniens, biélorusses, les chefs d'État également de l'Azerbaïdjan ou encore de Cuba et du Congo-Brazzaville. De quoi gêner quelque peu certains ambassadeurs accrédités à Pékin qui ont été invités par le régime chinois et qui ne veulent surtout pas se retrouver sur la photo aux côtés de dictateurs. Côté européen, les ambassadeurs d'Allemagne et de la France ont décliné l'invitation. Pour ne pas trop froisser la Chine, certains diplomates ont fait valoir qu'ils étaient en vacances. Mais il n'y aura pas d'unité européenne. Le Premier ministre slovaque Robert Fico, connu pour ses positions pro-russes, assistera au défilé. Il a d'ailleurs rencontré cet après-midi Vladimir Poutine.
Sébastien Berriot, correspondant de France Culture en Chine. Voilà une affaire qui relance la polémique sur les tests de féminité dans les grandes compétitions sportives internationales. La Taïwanaise Lin Yuting ne participera pas au prochain championnat du monde de boxe qui débute jeudi à Liverpool. Sa féminité avait été mise en cause lors des derniers Jeux Olympiques de Paris l'an dernier. Son entraîneur assure qu'elle s'est bien soumise aux tests génétiques imposés par le World Boxing il y a 15 jours, mais la fédération international de boxe n'a pas répondu. Noureddine Zidane, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Ces tests, Noureddine, suscitent la controverse.
Oui, même si ces tests de féminité ne sont pas récents dans le sport. Dans les années 30, il y avait des parades nues pour examiner les organes génitaux des sportives avant les premiers tests génétiques dans les années 60. Les organisateurs disaient alors vouloir assurer l'équité entre sportives, lutter contre la fraude. Alors si le Comité international olympique a banni ces tests en 1999... Certaines fédérations internationales, comme la boxe donc, y ont quand même recours. Concrètement, c'est un test PCR pour savoir si le chromosome Y contient un gène SRY qui détermine la formation des testicules. Et ce n'est pas forcément pertinent pour Francis Poula, directeur de recherche à l'INSERM.
On peut détecter le chromosome Y chez des personnes qu'on va caractériser donc comme des femmes, mais qui peuvent être porteuses de ce qu'on appelle de différence du développement sexuel. Donc vous pouvez être porteur du gène SRY, mais n'avoir aucun avantage par une production de testostérone qui pourrait favoriser votre masse musculaire.
Et depuis hier, de tels tests sont aussi obligatoires en athlétisme. La Fédération internationale impose déjà aux athlètes féminines sujettes à de l'hyperandrogénie un traitement médical pour faire baisser leur taux de testostérone. Des mesures humiliantes pour l'ONG Human Rights Watch qui porte, je cite, à la dignité humaine des sportives. Comme la triple championne du monde du 800 mètres, Caster Semenya, née intersexe, la Sud-Africaine mène depuis plus de 6 ans un marathon judiciaire pour faire invalider ce règlement.
Explication signée Noureddine Zidane de la rédaction sportive de Radio France. Le temps demain sera marqué par un nouveau passage pluvieux et venteux sur le nord-ouest des Pays de la Loire à la frontière belge. Sur le nord-est, un ciel nuageux et quelques averses alors que le soleil devrait s'imposer au sud. Demain matin, il fera entre 8 et 17 degrés. L'après-midi, les maximales iront de 19 à 31 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. À la technique, il y avait Grégory Wallon. 18h20 sur France Culture, vous retrouvez Quentin Lafay pour les questions du soir.
Merci beaucoup Stanislas Vazak et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Questions du soir, 1h30 consacrée à l'actualité, au débat, aux idées et aux découvertes. Et à 19h, dans l'actualité vue par les idées et la recherche, alors qu'en cette rentrée scolaire, des évaluations seront proposées à tous les élèves de 6e pour tester leur capacité physique. Une question, l'EPS est-elle une discipline comme les autres? On en parlera avec Sarah Pochon, elle est enseignante, chercheuse, maîtresse de conférences en STAPS à l'université d'Artois. Mais pour l'heure, place au débat démographique ce soir.
France Culture, question du soir. Quentin Lafay.
Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la France enregistre plus de décès que de naissances. Alors, comment aborder la question démographique? Faut-il s'en inquiéter? Quel impact sur notre modèle économique, sur notre modèle social également? Et quelles solutions pour y faire face? Pour en discuter, 3 invités ce soir. Maxime Sabsbaï, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur stratégique du club Landois, expert associé à l'Institut Montaigne et l'auteur du livre intitulé « Les balançoires vides » qui est apparu en janvier dernier aux éditions de l'Observatoire. Face à vous, Sébastien Olivaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe des populations, directeur de la Maison des sciences sociales et des humanités de l'Université Paris-Saclay, co-auteur du livre intitulé « Dynamique du peuplement mondial, comment la population habite le monde » qui a été publié en 2025 chez East Edition. Et avec nous à distance, Sandra Bré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne et démographe, chercheuse au CNRS, au laboratoire LARA, c'est le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Moins de bébés en France. L'INSEE vient de publier le bilan 2024 des naissances. Ce sont des données consolidées qui confirment une nouvelle fois la baisse de la natalité en France.
660 000 bébés ont vu le jour en 2024. C'est 158 000 de moins qu'il y a 10 ans. Une baisse de la natalité qui concerne toutes les régions, y compris les départements d'outre-mer.
L'année dernière, Emmanuel Macron avait lancé un grand plan contre l'infertilité, appelant dans le même temps à un réarmement démographique.
En mai dernier, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'INSEE a relevé un solde naturel négatif, ce qui signifie plus de décès que de naissances.
Et une citation pour commencer, voilà ce qu'écrit Raymond Aron dans ses mémoires. « Les Européens sont en train de se suicider par dénatalité. Les peuples dont les générations ne se reproduisent pas sont condamnés au vieillissement et du même coup, guettés par un état d'esprit d'abdication de fin de siècle. » Fin de citation. Alors Maxime Sbahi, Aron lucide ou Aron pessimiste?
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Aron, il finit ses mémoires comme ça. Hein. Cette citation, c'est je crois dans les dernières pages de son livre. Et c'était dans les années 80. Comme quoi, vous voyez, ces débats-là, ils sont pas tout à fait nouveaux. Et en fait, quand on regarde, ils sont dans le débat public, revenus, repartis, en fonction des courbes démographiques qui elles-mêmes ont évolué, en fonction des guerres, des famines, des épidémies.
Ils ne sont pas nouveaux, mais globalement, ils sont quand même sous les radars. On en entend relativement peu parler.
Alors en France, quand vous allez en Italie ou en Allemagne, je vous garantis que ces sujets-là, ils sont au centre du débat public. L'Italie perd 300 000 habitants par année, hein, c'est-à-dire qu'il y a 300 000 décès de plus que de naissances, donc ils sont déjà en solde naturel négatif. Nous, en France, effectivement, on est en train d'y arriver. Alors, c'est assez étonnant d'ailleurs que ça arrive aussi vite, puisque dans les prévisions de l'INSEE, ça devait arriver dans 10 ans. Et là, effectivement, quand on commence à suivre donc en glissement annuel, donc sur les 12 mois, on voit effectivement que ça y est, on est en train de basculer. 2025, probablement, sera l'année du basculement en solde naturel négatif. Et c'est la première fois que ça arrive depuis, si on enlève la guerre, depuis les années 30. Donc c'est un tout nouveau régime démographique. Pourquoi ? C'est très simple. Vous avez d'un côté une courbe des décès qui augmente assez naturellement, assez mécaniquement avec le vieillissement de la population et l'arrivée de ce qu'on appelle les baby-boomers à des âges de plus forte mortalité. Les premiers boomers ont aujourd'hui 80 ans cette année. Et de l'autre côté, vous avez une courbe des naissances qui, là, pour le coup, s'est effondrée. Moins 24% en 15 ans, donc c'est pas rien, et qui s'est tellement effondrée qu'elle est venue rejoindre finalement cette courbe ascendante de l'autre côté. Tout ça n'était pas tout à fait dans les radars il y a 10 ans ou il y a 15 ans, où on n'aurait pas eu ce débat, puisque la France, il y a 15 ans, faisait encore beaucoup d'enfants, était le pays de l'exception démographique, et avec un taux de fécondité de 2 enfants par femme en moyenne. Donc on était plutôt le pays qui se portait bien, et d'ailleurs des délégations étrangères se pressaient aux portes de nos ministères pour comprendre comment la France faisait pour résister à la dénatalité.
On va revenir sur cette sur ces tendances que vous décrivez, mais je reviens tout de même sur les mots d'Aron. Ils sont forts, ils sont même frappants. Un état d'esprit d'abdication, de fin de siècle, c'est ce à quoi nous sommes voués ?
Moi, je pense qu'il y a des impacts économiques et sociaux très forts. Je pense effectivement que ça a un impact sur la culture d'un pays. Et que la France des années 60-70, qui était une France en plein baby-boom, qui était une cour de récréation grouillante, bruyante d'enfants, n'a plus rien à voir avec une France d'aujourd'hui où les maternités sont en train de se vider, les écoles sont en train de se vider. Je vous rappelle qu'on a fermé 6000 écoles depuis 2010, qu'on a perdu un demi-million d'écoliers dans les écoles élémentaires depuis 2010, et les enfants se raréfient. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. La jeunesse, les enfants se raréfient. Et oui, c'est peut-être pas étranger au fait qu'on passe notre temps à devenir nostalgique, à dire que c'était mieux avant, à faire en sorte que l'avenir n'est plus vraiment un espoir. Je pense que ça, c'est aussi tout à fait lié à la structure, à la composition démographique du pays.
Sébastien Olivaux, est-ce que vous partagez ces inquiétudes, les inquiétudes liées à la transformation en profondeur, on l'a compris, du corps social français ?
J'ai un naturel plus optimiste et je pense qu'on va beaucoup insister sur les dangers de cette dénatalité, mais ça apporte aussi d'autres éléments qui peuvent être vus de façon beaucoup plus positive, aussi bien du point de vue économique que du point de vue social.
Lesquels alors ?
Tout bête, ça veut dire une redistribution des richesses au bout d'un moment. C'est-à-dire que pour l'instant, le capital, il est accumulé par les plus anciens. Quand les plus anciens vont disparaître, ce capital, il va être redistribué. Si au lieu d'être redistribué entre 3 ou 4 personnes, il est redistribué entre 1 ou 2 personnes, ces personnes-là vont se retrouver plus riches. C'est assez mécanique. Donc il y a aussi ces aspects-là. L'empreinte... on discutera des chiffres tout à l'heure sur la baisse, parce que la baisse va pas être non plus... On est dans un moment de bascule, qui est un moment de bascule symbolique, mais la baisse de la population, elle va pas avoir lieu tout de suite, elle va pas être très violente. Donc on est plutôt sur un moment de stagnation qui a en fait déjà été amorcé. Donc de mon point de vue, on est dans une rupture symbolique et on voit bien, ça va choquer, ça choque une partie du personnel politique français qui est finalement un petit peu sous-cultivé en termes de démographie, on va se le dire. Mais Quand on trace les lignes, elles chutent pas. Alors les lignes des naissances, elles chutent, mais les lignes de la population globale, elles chutent pas. Donc c'est pas forcément, c'est pas une catastrophe qui arrive. Et ça peut aussi avoir des bons côtés par ailleurs sur l'accès au logement, par exemple.
Sandra Bray, on va revenir sur l'ensemble des sujets évoqués, mais Sandra Bray, cette angoisse qui peut, j'allais dire, traverser une partie de la classe politique française aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle. La France, elle a eu affaire à plusieurs reprises, justement, à ce défi démographique.
Oui, tout à fait. En fait, la France a une histoire démographique particulière, et notamment de sa fécondité. C'est le